incroyable.
Le retour de Radio X.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Radio X. Gary.
Gary.
C'est un ami.
Gary.
La réponse est oui.
Gary.
Gary. T'es unique et exceptionnel. Hey, tu sais, Gary se présente en studio, les auditeurs, là. Faites-vous l'image. Gary se présente en studio avec une cassette, comme les cassettes à l'époque, quand on mettait ça dans la petite enregistreuse. Marcel, là.
On prenait un crayon pour en remonter, là.
Oui, avec du ruban, là. Là, j'ai dit, ouais, mais tu as enregistré le match en vidéo. Il me dit, non, le son.
Non, je t'ai descendu tout seul en pleine game. Okay. Je fais, ça me prendrait ça.
Mais tu me dis que chez toi,
oui,
tu as des cassettes.
Oui.
Exemple,
oui.
Un dimanche soir, les Nordiques à Buffalo.
Oui.
En 88, mettons.
Oui. J'ai beaucoup de games des années 80, là, genre Dale Hunter à New York.
C'est sûr, Alain Crête, le descripteur.
Bien sûr, Alain Crête. C'est des cassettes qu'on n'écoute pas très souvent, on ne se le cachera pas. Mais je me suis dit, pourquoi pas me faire une cassette pour le Canadien Nordique 2025? Ce qui est le fun d'une cassette, c'est qu'après ça, il faut que tu écrives sur le...
Oui.
Ouais,
mais ce qui était hot dans la description de ce week-end, c'est qu'on disait entièrement le mot nordique. Là. C'était pas avalanche.
C'est une des raisons pourquoi je voulais avoir cette voix-là, en fait. Puis on va le nommer, là, Martin McGuire avec Danny Dubé, les deux.
Disait nordique.
Qui disait nordique. Alors,
Alors qu'à RDS, c'était tout le temps Colorado.
Moi,
ça fait jaser, ça, parce que même sur le panneau afficheur sur RDS, puis je sais que Dan et Dom Dumas l'ont partagé sur leur Facebook, là, c'était marqué, tu sais, avec le logo des Nordiques, mais c'était marqué Colorado.
Oui.
Puis sur Attitude Sports, qui est le réseau à Denver, tu sais, vraiment, par respect, ils ont marqué le logo plus QUE pour
Québec.
Mais
les mots du
Canadien,
ils nous haïssent. C'est eux autres qui nous sabotent.
Savez-vous quoi? Juste à cause de ça, je ne l'ai pas écouté à RDS, la game.
Moi,
je me suis organisé pour la trouver sur Internet.
Moi, j'ai mis ça, c'est un poste russe, là. Et puis en même temps, j'écoutais Martin McGuire qui disait, là, dans la zone des Nordiques. Là, j'étais, yéou, Michel Goulet, yéou. Puis là, finalement, il est à l'entracte.
Mais t'es cute, t'es un grand nostalgique. À toi, tes notes sur une feuille de papier, t'as un agenda papier.
Je me suis fait avoir par des ordinateurs qui me lâchaient juste au moment d'entrer en onde.
Mais vas-tu les réécouter ou ça va mourir à un moment donné dans un tiroir à quelque part?
J'écoute un matin.
OK.
Ah, parce que moi, je pense à quelqu'un qui va...
Mais non, mais je suis descendu dans le sol, puis là, j'ai tapé mes nouvelles. Moi, je me suis fait un petit studio dans le sous-sol chez nous. Puis là, j'ai dit, c'est vrai, j'ai tapé à game, puis là, j'ai pesé sur play.
T'as réécouté à game?
Là, j'ai écouté à game 15-20 minutes pendant que je plaçais mes affaires, là.
Moi, je réécouterais une game des Nordiques à Buffalo un dimanche soir, alors que ça finissait 11 à 8.
Oui.
Tu te souviens de ces soirées-là?
Oui.
Les Stachny, 3 buts pour Peter, 2 passes, Anton, 2 passes, 1 but, puis Marianne, c'était magique,
c'était
ça.
C'était l'époque plus le fun avant de tomber dans la profonde reconstruction des Nordiques fin années 80.
Oui, méchante reconstruction qu'on a eue.
Bon.
Je me souviens, une année, là, on avait gagné genre 8 games sur 84.
Ah, ça n'avait pas de bon sens, je pense à la saison 88.
Puis ça faisait genre une strike de 21 games qu'on perdait. Puis c'était contre les Flames de Calgary. Puis on a annulé 3-3, mais... Standing ovation. Nos Nordiques avaient annulé cette fois-là. On les aimait tellement. T'sais, c'est ça la différence avec Montréal.
J'ai des frissons de cette époque-là du hockey.
On les aimait tellement, contrairement à Montréal, qui, à minute que ça va pas bien, ils sont en train de huer leur goaler et toute leur patente. Là. Nous, on les aimait pareil.
Daniel Bouchard.
Daniel
Bouchard, on est en série.
La mythe de Dieu.
OK, on est en série. je raconte de quoi, puis là, c'est... Oui, c'est dans ma mémoire. Je le sais que j'ai pas de preuve vidéo de ça, à moins que ça ait été filmé et on pourrait aller voir, mais je me souviens pas, c'était quel match. Mais Daniel Bouchard sont en série et ils gagnent en série en prolongation.
Contre le Canadien?
Ouais.
C'est le but de Dale Hunter.
Ben, en tout cas, je sais pas.
C'est le but bizarre.
C'est le but de Dale Hunter bizarre, oui, 82, je pense.
Écoute, ils en ont gagné d'autres matchs en série.
Le but de Peter en 85 aussi, on peut en parler plus tard.
Moi, là, j'ai réussi de partir de mon siège en haut. J'étais un petit cul, j'ai peut-être 15-16 ans. Je suis descendu sur le bord. Puis quand il est passé, j'ai tiré, moi, sur son hockey. Puis il m'a regardé, puis il a tiré. Puis il m'a fait une maudite face. Au lieu de me laisser son bâton, il m'a fait ça.
C'était quel joueur, ça?
C'était Daniel Bouchard.
Ouais,
la main de Dieu. Moi, je me dis, la main de Dieu va me laisser son hockey.
Il voulait pas te donner son Louisville.
Non, je l'avais comme insulté.
Mais là, son
Louisville. Il m'a regardé, puis il était en maudit. Mais fort probable, il voulait garder son bâton
son
blanc.
Louisville, il se souvient de la main.
C'est ça.
C'est vrai, ça, en plus.
Ben oui, mais Dan Bouchard, c'était mon meilleur.
Ah, il était bon. Mais moi, à partir de là, c'est devenu mon anti-idole. Je l'aimais plus.
Oui, mais il avait peut-être encore besoin de son...
Peut-être.
Mettons qu'il y a un enfant qui avait dit « Je vais te donner mon bâton après la game. » Tu sais, Danny Hull, 8 ans, peut-être moins attachant.
C'est sûr. 15 ans, mettons. Là.
15 ans.
C'est ça.
Avec des boutons sur le front.
Ouais,
saison 89-90, messieurs. 12 victoires, oui. 61 défaites.
Exact.
7 nuls.
Exact.
Hey, 61 défaites.
Non, non, ça y allait, les défaites, là.
Jean Perron, il était-tu dans le décor dans cette équipe?
À ce moment-là, oui.
Hein? C'est ça, oui. Il est, en tout cas, ça va de savoir quand on va y reparler.
C'était pas facile,
on parlera de cette saison-là.
Hein. Pierre Pagé est arrivé après ça, il a réglé ça un peu.
Ouais.
Puis, ben, malheureusement, ils sont partis vers le Colorado, puis on a eu un beau moment quand même. Je voulais vous faire entendre avant toute chose là, des petites cotes d'Éric Girard qui, vendredi, nous explique pourquoi le retour des Nordiques est inévitable. Mais juste vous dire que dans le secteur de Sault-Sainte-Marie, je sais que c'est un peu loin de chez nous, mais quand même, il faut le mentionner, dans 16 semaines, les 1000 travailleurs de Algoma Steel, on a appris ça aujourd'hui, seront mis à pied. Donc, c'est une grosse nouvelle au Canada anglais, particulièrement en Ontario. Surtout que les gouvernements ontariens et fédéral, en fait, le gouvernement du Canada, venaient d'injecter 500 millions en prêts et subventions. Et là, Algoma Steel quitte. La nouvelle qui retient le plus l'attention, en fait, c'est que Stephen Guilbeault, qui était à Tout le monde en parle hier, on a bien compris que...
Les motifs.
Il siégera dorénavant comme indépendant, mais il y avait quand même un poste à combler. Donc aujourd'hui, il y avait
indépendant ou c'est-tu...
Libéral.
Libéral, mais libéral, député, simple député.
Simple député, excuse-moi, ouais. Merci de me corriger.
Ouais.
Donc il n'est plus ministre, mais quand même, il y avait assermentation aujourd'hui à Ottawa en présence de Ma Mary Simons, you know. Et Stephen Guilbeault sera remplacé par Joël Lightbound à titre de lieutenant du Québec. Et Mark Miller, qui deviendra le ministre de la Culture, le ministre de Radio-Canada, on va dire ça comme ça. Donc, ça a été annoncé cet après-midi. Je pense que la cérémonie vient tout juste de se terminer. Si vous voulez, on peut entendre quand même le député là, le plus près de nous, en fait, au fédéral, Joël Lightbound, qui prêtait serment en franglais.
Je promets et jure solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et d'Approvisionnement et lieutenant du Québec.
C'est fait. Donc, on a un ministre, il est à Québec. Son bureau est sur le chemin Sainte-Foy. Tout de suite après, là, le métro a gagnant au coin du Plessis.
Non, mais vous regardez, tout le monde en parle hier. Moi, écoute, c'est la première fois en 5 ans, mais je l'ai écouté. Guilbeault, c'était du fake hier.
C'est sûr que quand on
ben non, il n'y a pas sa place en politique, ce gars-là. Là.
Quand on dit c'est le temps de brailler, là, vas-y, là, ouais. Ça serait là, là. Ben, oui. Ben tu le temps de brailler.
Timing est bon, moi aussi.
Ouais, mais tu sais, moi, c'est comme un gars là, qui s'est fait laisser, puis là, il va brailler pour que ça revienne aux oreilles de son ex. Là. Ah, il est malheureux, puis bon, ça marche pas, ça.
C'est Stephen Guilbeault, je pense.
Tu confirmes? Un gars qui braille, qui s'est fait laisser, y a-tu une fille qui veut ça dans la vie?
Non, non, mais l'inverse est vrai aussi, là, mais non, effectivement.
Ça, mais ça me fait broyer, ça tu... C'est ça, je sais pas.
C'est de fausse.
Toi, quand tu rencontres, tu rencontrais, peut-être que là, tu le fais plus, mais tu rencontrais un gars, là.
Ouais.
Et ça pitoie, puis il braille, puis il est tout à malheureux.
Non, c'est un off, là.
C'est un off.
Ouais.
Ben, je l'ai là, quand tu veux-tu l'entendre?
Oui, on va l'écouter.
Oh, oui, tout le monde arrive, tout le monde en parle. Donc,
il m'a tué dans la cour pépène.
Stephen Guilbeault, qui, je pense, avait véritablement de la peine, là, parce que là, il en perd beaucoup. Là, du,
non, il fait
du,
le show.
Du reach, on va dire. Là.
Il cherche une job ailleurs.
C'est une vraie bonne idée de partir, là, parce que si ça ne changera rien, on l'écoute.
Vous aviez dit à l'époque que l'Alberta était le leader des investissements dans les énergies renouvelables. Qu'est-ce qui fait que le vent a tourné?
L'élection de Danielle Smith comme première ministre de l'Alberta. C'est incompréhensible. Mais pour des raisons essentiellement idéologiques, elle a mis en place un moratoire sur les énergies renouvelables en Alberta. Ça représentait des milliards de dollars d'investissement. Ils ont perdu 5 à 10 000 emplois presque du jour au lendemain. Tout ça parce qu'elle a dit, moi, je ne crois pas à ça, les énergies renouvelables, même s'il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de... C'est de la folie furieuse.
Ouais. Mais le milieu culturel semblait vous aimer beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages depuis quelques jours. On disait, il est impliqué, on l'aimait beaucoup. C'était vraiment un allié pour nous. On vous voyait dans des premières, et ce n'est pas le cas de tous les ministres de la culture. Est-ce que vous avez l'impression que vous abandonnez un peu la culture?
Ben, tu sais, il y a tellement de choses que j'aurais voulu pouvoir faire avec eux autres encore. Mm. Mais le sacrifice de
Gary,
faire ça...
Oui. C'est du fake, ça. Et voyons donc.
Le prix était trop payé.
S'il avait parlé d'écologie...
Quand est-ce qu'il a parlé des artistes dans sa vie, ce gars-là?
Mais il allait des premières parce qu'il est ministre de Radio-Canada.
Oui, mais je veux dire, avant ça, là...
Mais je pensais qu'il allait plus pleurer pour un enjeu, un éco-enjeu.
Ben oui!
C'est que là, tu serais plus... Alors, tu sais, Girard, de la journée est encore poche, là, qui te dit... Ouais, vous... Tu ne pourras plus aller dans les premières. Hein? Tu dois avoir le sentiment de l'abandon de l'artiste. Je pense qu'effectivement, Daniel, on peut te l'avouer. Oui,
c'est un peu poussé, la patente.
C'est un peu chorégraphié.
Oui, il veut que ça se rende à l'autre bout de la carnée, là, puis il faisait son petit bras.
Mais s'il avait pleuré là, pour, je sais pas, des arbres ou des enjeux éco, là, là, peut-être qu'on l'aurait cru plus.
Guilbeault artiste, là, ça...
C'était probablement une mauvaise nomination. Puis c'est Mark Miller donc, qui va le remplacer. Je vais te faire entendre vendredi dernier Éric Girard concernant le retour inévitable des Nordiques. Lui est plus ou moins convaincu. Là, à la messagerie, ce sera à vous de discarter le vrai du faux. Mais le retour des Nordiques, quand même, la question a été posée par Véronique Prince et je pense que ça vaut la peine de vous le faire entendre. On écoute la question.
On est rendu où dans ce dossier-là?
On en est rendu que nous avons un amphithéâtre exceptionnel à Québec qui a été bâti pour avoir une équipe de hockey. Nous avons une histoire de hockey qui part des Bulldogs, puis les Nordiques, puis les Remparts, puis Guy Lafleur, puis Patrick Roy. Et on a une histoire, on a des fans. On n'a pas de propriétaire québécois qui est prêt à payer 2 milliards canadiens.
C'est ça qui nous manque.
Alors, on est vraiment rendu à 2 milliards la concession.
Ben, le Canadien vaut 3,4 puis les Maple Leafs 4,3. Fait que tu sais. Puis les Utah Hockey Club là, qui ont acheté les Coyotes et ils ont été vendus à quoi 1 milliard l'an dernier, c'est de 31,5. Ouais. Fait que si tu veux acheter un club, on parle pas d'un projet d'expansion, plus les surenchères, t'es rendu à 2,5 milliards. Facile.
Moi, j'ai toujours pensé que la seule option qui s'offrait à nous, c'est un propriétaire américain déçu de ses revenus et qui dit bon, je vais donner 15% de ça à PKP.
L'ancien propriétaire du Canadien, là, M. Gillette. Ça prendrait M. Gillette.
Ça prendrait un riche américain de payer un peu dans le vide aux États puis qui dit ben, sûrement qu'à Québec, je serais capable de générer des revenus plus en fait que dans un trou obscur des États-Unis. On continue avec toujours M. Éric Girard, le ministre, des Finances, mais surtout le ministre des Nordiques. Lui, il dit, tu sais, 2 milliards, oui, mais c'est plus que 2 milliards que ça prend. Ça prend quelqu'un qui en a 10. Là.
Une équipe de hockey, vous achetez ça, puis le but, c'est de l'opérer, de le vendre plus cher à un autre.
Parce que Pierre-Carl Péladeau, c'est plus...
2 milliards. Pour mettre 2 milliards dans un actif qui ne produit pas de revenus ou presque, il faut au moins valoir 10 milliards personnellement. Alors, je ne connais pas le bilan de M. Péladeau, mais je dirais que...
Donc, les chances sont peu probables. C'est ça que vous êtes en train de dire.
Attendez,
Hey, des 10 milliards au Québec, il n'y en a pas tant que ça. Là. Il
se compte, c'est d'autres.
Vous avez démarré, peut-être.
Mais il faudrait que tu les réunisses autour de la
Poirier,
même table.
Peut-être.
C'est ça.
Poirier.
Mais Poirier, je pense qu'il ne vaut même pas ça.
Non. Sur Internet, assez vite, d'après moi, Marc, les 5-6 plus riches au Québec.
Pendant que Mel fait la recherche, peut-être faire entendre.
Saputo.
Alain Bouchard.
Peut-être.
Les Couchetards.
9 milliards, ben oui, Couchetards. Après ça, on dit la famille Desmarais, mais 7 milliards, famille Saputo. À 6 milliards. Après ça, Lawrence Stroll à 5. Et après ça,
le père de Lance.
On n'a pas un 10 encore?
Non, le top, c'est Alain Bouchard à 9. De ce que je peux voir ici.
Parce que Éric Girard, lui, il a l'air d'en connaître deux des Québécois qui ont plus que 10 milliards. Puis il n'a pas le goût de nous dire qui, mais en tout cas, c'est le fun de spéculer. On l'écoute.
Je connais deux personnes au Québec qui valent 10 milliards personnellement. Je leur ai déjà demandé s'ils voulaient... Ben, je vous laisse vérifier tout ça. S'ils voulaient acheter une équipe de hockey, puis ils m'ont dit non.
OK.
Alors, tant qu'on n'aura pas un promoteur...
De la liberté, par exemple?
Non. Je pense pas qu'il vaut 10 milliards.
OK.
Un promoteur québécois qui aime le hockey, qui est jeune aussi, qui va opérer ça... Ça prend quelqu'un qui va opérer ça pendant 25 ans. Donc, c'est pas quelqu'un qui a 70 ans. Okay. Donc, c'est quelqu'un qui vaut 10 milliards personnels, qui veut s'investir pendant 25 ans pour une équipe de hockey et payer 2 milliards pour quelque chose qui fera pas d'argent annuellement.
Il faut que tu sois passionné, là.
Son nom, c'est Elon Musk. C'est M. Alperin qui l'a dit dans notre show.
Ouais. Ah, les Nordics.
C'est ça. Il faut vraiment que tu sois passionné. Là. T'es rendu, tu vaux 10 milliards. Il faut que tu aies de l'énergie. Il faut que tu aies vraiment envie.
Mais ça prend plusieurs investisseurs qui, au total, tout en valent une vingtaine, trentaine. Là, c'est ça. Parce que ça me surprendrait bien gros que quelqu'un achète
ça
à
lui seul. Mais est-ce qu'on a... Selon toi, le public est assez engagé pour...
C'est juste ça qu'on a.
ça va coûter cher.
Le public est engagé, mais à 280$, c'est 42 games par année.
Pourquoi vous dites que ça va coûter 280$?
Mais ça va être ça pareil.
Ouais. Alors, pourquoi ça coûterait 280$?
Pas 280, alors ça risque de coûter au-dessus de 100$ là, chaque.
Ben 100$, oui, mais c'est pas 280$. Là, parce que dans le fond, on aurait les mêmes tarifs qu'à Ottawa. À Boston.
Ah, mais c'est du 280, t'en as à Ottawa. Là.
Oui, il y en a, mais je veux dire, c'est pas comme à Montréal ou à Toronto. Là. On serait un marché qui serait pas un marché A+. On serait un marché qui serait super le fun à voir.
C'est-tu, moi, je suis d'accord avec toi que c'est... puis je t'entendais ce midi avec la gang, là. Je pense que les gens seraient capables de se payer des tickets.
Ben oui.
Mais est-ce que l'équipe serait capable de se payer des joueurs? Ça, c'est une autre affaire.
Ben avec la répartition des... suis pas Pierre Couture, là, mais la répartition des profits fait quand même qu'il y a des équipes qui sont avantagées par ça. Mais si vous faites le test, là, allez voir les Panthers de la Floride, une game en février dans le haut, là, c'est genre 18$.
Oui, mais Québec, ça va être bien plus cher que ça.
Oui, ça serait 44 ou 100, 120. Mais dans le pit-pit, ouais, 120.
En plus, 90, 100
en plus au Canada, il faut qu'on paie les joueurs en argent américain.
US.
US.
Ça, c'est tough. Ça, c'est, ça, c'est, oui, tough. Ça, c'est un bon point. Oui.
Là, la masse salariale va être à 113 millions dans pas long. Fait que ton meilleur joueur va te coûter 15-20 millions. Puis le salaire moyen, ça va être du 9-10 millions par année. Ça, on a-tu vraiment les moyens de se payer un club?
C'est pour l'instant, c'est sûr qu'on n'a pas les moyens. Puis M. Girard nous a fait la démonstration. Mais on a l'aréna, on a le public, on a les fans. Donc, on est vraiment mordu de hockey. T'sais, si je parlais d'une équipe de la NFL ou d'un Grand Prix de Formule 1 à Québec, je pense que je serais dans le champ. Mais naturellement, ce serait une troisième équipe dans un marché super pro-hockey comme Québec. Avec un aréna construit.
Winnipeg va être là.
Je rappelle que moi, j'étais pas à Radio X il y a 15 ans, puis on faisait des blocs de 18 heures en ligne sur l'importance d'avoir un aréna. On l'a! Il est construit. Fait que là, baissons pas les bras, soyons positifs. On cherche notre petit milliardaire là, qui en a 10 de trop. Là. Puis souhaitons qu'il appelle PKP et qu'il fasse un merge.
Ah, mais t'as
pas
un bon
la
point.
Pour
un bon point, DH sur Winnipeg.
Winnipeg, c'est un petit marché, Winnipeg.
C'est un petit marché. Puis l'autre exemple que je pourrais vous donner, c'est le marché de Green Bay dans la NFL.
Oui, très bon exemple.
Ils ont 107 000 de population, puis ils ont un club. Mais
c'est Buffalo, là, c'est microscopique.
Ah ouais, exact. C'est pas gros.
Des sortes de Buffalo, là.
Mais les sortes de Buffalo, on s'entend que...
Propriétaires
sont
des
vraiment
Bills.
Moribonds depuis des années. Parce que, quoi, ils ont, parce qu'ils font des mauvaises transactions ou ils n'ont pas les moyens?
Les Nordiques de 89.
Ben, c'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, mais on dirait que c'est le climat général des, dans la chambre des Sables, la direction des Sables. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais la dernière fois qu'on a fait les séries, c'était en 2011.
C'est un club de moribonds.
Ah oui, c'est extraordinaire. Voilà.
Peut-être une dernière concernant Éric Jarre, parce que je sais que les gens sont friands d'informations. Je ne l'ai pas fait jouer ce midi d'ailleurs. C'est en lien avec les rencontres qu'Éric Girard a eues avec Gary Bettman à New York. T'sais, on n'a pas entendu beaucoup là, il ne s'est pas beaucoup exprimé sur ces rencontres-là. Quelles sont les conséquences, ou plutôt qu'est-ce qu'on peut retenir de ces multiples rencontres-là avec Gary Bettman?
Pas demain la veille qu'on va en avoir une équipe, là. Malgré toutes vos rencontres avec Gary Bettman.
Je l'ai rencontré 5-6 fois, M. Bettman, notamment la dernière fois que l'équipe de Phoenix est partie à Salt Lake City. Mm-hmm. Mais c'est pas le gouvernement qui va être derrière ce projet-là. Le gouvernement a payé l'amphithéâtre.
C'est ça.
Là, ça nous prend un promoteur privé québécois passionné de hockey, multimilliardaire.
Qui veut pas se séparer.
C'est ça. C'est un détail, dans le fond. Là.
C'est ça, mais il y en a-tu un? Il y en a pas. Je viens d'écrire là. C'est ça, pas mal. Là.
On en connaît un qui est plutôt séparatiste. Hein. Déjà, je pense même été à la tête du PQ.
Moi, je pense que Batman, il est dans son bureau à New York, puis il voit ce grand... Il est assez grand, le ministre.
PKP,
hein?
Ouais.
Non, le ministre.
Gérard.
Gérard. Je sais pas, il est tout grand, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il est assez grand. Il doit dire, c'est un grand brun-là. Il se fait bien fatiguant, lui. C'est qui, lui?
Mais là, surtout qu'il revient tout le temps aux 4 ans, lui.
Ouais, il est fatiguant, lui.
Là, 2026, là, on va en entendre parler. On est cogné encore à New York.
Ça,
puis, en on va en entendre parler dans la campagne, pareil.
En conclusion, je vous dirais seulement que Gary Bettman n'est pas éternel. Un jour, il y aura quelqu'un qui va reprendre cette ligue-là, qui va être à la tête, puis qui va dire, il semble qu'il y a une petite équipe canadienne de plus, là, ça pourrait faire générer de l'argent de plus, parce que je vous rappelle que la majorité des revenus de cette ligue-là provient des équipes canadiennes avec les droits de télévision et les droits aussi de s'asseoir dans l'aréna. Va faire un tour dans le sud, là. Va voir les Lightning en novembre.
Ben oui.
Va voir qu'il y en a de la place.
Tu sais, des matchs comme contre Boston, Montréal, t'aurais aussi New York, t'aurais quand Patrick va venir. Ça va fouler, là. C'est sûr que c'est plein ici à Québec, au centre Vidéotron. Là.
Ben, ça va être plein des premières semaines, des premiers mois, c'est sûr. Mais moi, j'aimerais ça faire un test, là. J'aimerais ça voir dans le futur. Mettons, tu te propulses dans 2-3 ans, puis les Nordiques ont une fiche de 12-42. Là. Le monde, vont-tu y aller? Ou, ils sont pas tant bons cette année? T'sais, le monde à cette heure, c'est plus tough de sortir du divan depuis la COVID. Je le vois au centre Vidéotron. Là. Quand ça le tente pas, ça le tente pas.
Ouais, mais
ça prend des
genres
d'événements. Ouais, mais 42 games par année, DH, c'est beaucoup de matchs.
Non, moi, en tout cas, c'est ça, on a chacun notre opinion, puis c'est correct. Hein, j'aime ça. Mais je pense que moi, c'est pas l'histoire des fans. Ils vont en avoir. Ça va venir du lac Saint-Jean, de la Beauce. Il y en a qui vont venir de Montréal.
Oui,
bon, partout, là, partout. Là. On fait venir des artistes. Ça a l'air qu'il y a du monde de New York qui vient de voir des artistes et plein. Fait qu'ils vont venir voir la Ligue nationale.
Molson va être content. Hein? Il va aimer ça,
mais
voir un club à Québec.
C'est Montréal qui nous bloque.
Est-ce qu'on sera capable de payer les joueurs, puis est-ce qu'on en a pas de... Ça va prendre un Américain. Un Américain ou ben non, quelqu'un, je sais pas, de Dubaï, ça tente de s'en venir à Québec à moins 30 l'hiver.
Les chameaux de Québec, en ouais.
Un jour.
Oui.
Merci, Gary.
À demain.
Allez, bye.
Le retour de Radio X. Radio X.